À l'occasion de la diffusion d'un documentaire animalier, les réalisateurs présentent la vie d'une troupe de lions. L'épisode du jour focalise sur une lionne à terme. Lorsque les lionnes doivent mettre bas, en général, elles s'écartent de la troupe et vont dans un coin. Puis elles mettent bas et elles s'occupent des nouveau-nés jusqu'à quelques semaines, le temps de s'assurer qu'ils sont aptes à suivre la marche, à suivre les déplacements de la troupe entière. Et la lionne, pendant ce temps, assure toute seule le repas qui lui permet d'allaiter les lionceaux. À chaque sortie de chasse, la lionne s'assure de laisser les petits dans un endroit sécur. Et à son retour de la chasse, elle les retrouve exactement à l'endroit où elle les a laissés. Lorsque les lionceaux commencent à savoir se déplacer, à l'occasion de ce documentaire, il y en a un des deux qui est particulièrement intrépide, qui, de manière régulière, quitte le lieu sur lequel la maman l'a laissé pour aller tourner dans les environs. Et il s'est trouvé qu'à plusieurs reprises, de retour de chasse, la maman a cherché, elle a retrouvé son petit et l'a ramené auprès de son frère. Un jour, alors que le temps de chasse se prolonge, le lionceau curieux fait de nouvelles sorties, laissant son frère sur le lieu choisi par la lionne. Cette dernière de retour réalise l'absence du lionceau. Elle se met à sa recherche, en prenant soin de ne pas éveiller la curiosité des autres animaux autour qui pourraient être un danger pour ce lionceau. Elle a cherché longtemps, elle n'a pas trouvé le lionceau. Ce dernier, ayant réalisé qu'il s'est égaré, s'est mis à appeler sa mère, à lancer des cris. Et ces cris ont plutôt réveillé les hyènes qui n'étaient pas loin, qui sont arrivées et qui l'ont dévoré. La lionne de retour, après de longues recherches, s'est trouvée désemparée, dépitée. Elle est retournée retrouver le lionceau qui était sagement installé là où elle les avait laissés. Dans ses adieux au peuple d'Israël dans le désert, Moïse leur adresse la parole de la part de l'Éternel. Et il leur dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. » C'est en Deutéronome 30, versets 19 et 20. Vous l'avez compris, ce matin, nous parlons du choix. Le choix de vivre ou de mourir. Lors des témoignages, le jour du baptême, nous avons le privilège d'entendre l'histoire d'un choix de vie. Parfois, on est surpris par la profondeur des propos exprimés. Dans la Bible, il y a deux moments majeurs pendant lesquels Dieu le Père fait un témoignage au sujet de Jésus, son Fils. C'est notamment le jour de son baptême et au moment de la transfiguration. La transfiguration, c'est un moment que Jésus a connu où il a changé d'aspect, où il y avait trois disciples qui étaient témoins et qui ont pu percevoir que cet homme n'est pas qu'un homme, il est divin. Jésus s'entretenait alors avec Moïse et Élie. Lors du baptême de Jésus, en Luc 3, verset 21, nous lisons ceci, je cite, « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. » Tu as toute mon approbation. Lors de la transfiguration, nous sommes en Luc 9, versets 28 à 36, Jésus s'entretient donc avec Moïse et Élie. Les disciples Jacques, Jean et Pierre sont témoins de la scène. Alors que Pierre est en train de dire à Jésus, il faut qu'on reste ici parce que ce lieu est particulier. Il y a une nuée qui descend. Et de la nuée, on entend cette voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Et c'est ce que nous voulons faire à présent, écouter ce Fils qui parle. Et avant d'écouter ce que Jésus dit, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, devant ta parole, nous sommes si faibles. Nous avons besoin de toi. Pour être conduit, nous avons besoin de toi pour écouter afin d'être changé et de vivre ce à quoi tu nous invites. Bénis ta parole maintenant, ô notre Dieu, et notre écoute. En ton nom, amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et nous sommes au verset 49 et nous lirons jusqu'au verset 57. Luc 12, 49 à 57. Et le titre du message, c'est « Le choix pour la vie ». Luc chapitre 12, Jésus parle, il déclare ceci. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-fille contre la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et c'est ce qui se passe. Quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites, il fera chaud et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps? Et pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Jésus parle aux hommes et aux femmes de son temps. Ils sont pharisiens, ils sont maîtres, ils sont serviteurs. Ils sont parents, ils sont enfants, ancrés dans la vie spirituelle ou pas. Jésus s'adresse à toute l'humanité. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde résolument tourné vers la consommation. Nous sommes gourmands de mordre la vie à pleines dents. Combien de fois n'entendons-nous pas « Tu es jeune, profite de la vie ». C'est maintenant que tu dois faire toutes les expériences auxquelles tu penses. Plus tard, ce sera trop tard. C'est maintenant. Profite de la vie. Ah, la vie est courte. Fais-toi plaisir. Face à ce discours pour jouisseurs, Jésus apporte un son de cloche différent. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais déjà qu'il soit allumé. Si vous êtes à votre lieu de travail et que vous recevez l'appel d'un voisin qui vous dit « Votre maison brûle », quelle est votre réaction? Et tout de suite, vous voulez partir. Vous quittez votre lieu de travail et personne ne va vous reprocher de cela. Ou alors, si c'est impossible, vous allez appeler vos proches. Est-ce que tu peux aller à la maison? C'est grave. La maison brûle. Et pourquoi vous allez faire cela? Parce que vous savez que le feu, lorsqu'il est présent, il remet tout à néant. Il est capable de détruire ce qui est utile comme ce qui n'est pas utile. Mais le feu peut aussi, ou du feu peut aussi sortir quelque chose de merveilleux. Que fait-on pour rendre l'or pur? On le passe par le feu, le creuser, n'est-ce pas? L'or passe par la fusion jusqu'à 1000 degrés et plus pour qu'il en sorte libéré de toutes ses impuretés. Le psaume 19, versets 9 à 11, pose une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, c'est en se conformant à ta parole. La parole de Dieu agit comme un feu qui permet de purifier, un feu qui purifie, comme le feu purifie l'or. La parole de Dieu purifie le corps, elle purifie la vie. Jésus affirme que sa venue consiste à jeter le feu sur la terre, et son souhait, c'est que ce feu soit déjà allumé. Jésus n'est pas un pyromane. Il n'y a pas d'écrit qui parle du fait qu'il mettait le feu partout. Il n'avait pas non plus une armée de gens pour contraindre ses compatriotes à faire et à réaliser sa volonté. Si le Père témoigne au sujet du Fils et invite à son écoute, nous en déduisons que la seule arme en la possession du Fils est la parole. La parole est le feu dont Jésus parle. Et associé à ce feu, Jésus parle du baptême. Lorsque nous lisons la Bible, nous savons qu'à ce stade ici, Jésus est déjà passé par les eaux du baptême avec Jean-Baptiste. Et cet autre baptême ne ressemble pas à ce qui a été vécu au Jourdain. Ce moment pendant lequel le Père témoigne au sujet du Fils. Le baptême dans le Jourdain s'est passé en toute douceur, mais avec une profonde solennité. Le baptême dont il est ici question est couvert d'angoisse. Pourtant, il doit avoir lieu. Jésus sait que sa mission consiste à apporter la paix aux hommes, mais cette paix, elle a un prix. Elle va lui coûter la vie. D'où l'angoisse. Combien sont-ils parmi les hommes qui vont à la mort, le sourire aux lèvres? L'enjeu est grand. Il s'agit de l'avenir de l'humanité. Toutes les générations confondues sont concernées. Le feu dont parle Jésus est celui de cette parole qui embrase les cœurs, qui les ramène au Père. Et Jésus aspire à voir, non pas seulement quelques-uns qui la reçoivent, mais que de plus en plus des hommes et des femmes s'en emparent. Le feu qui embrase les cœurs va provoquer des chamboulements. Et le premier à être pris dans ce vertige, c'est le Christ lui-même. L'angoisse est celle de la croix. Qu'est-ce que la mort à la croix a-t-elle d'extraordinaire? Elle permet d'accéder à ce feu qui n'est pas seulement un feu qui détruit. Cette croix, elle est le feu par lequel l'humanité doit passer pour recevoir la vie éternelle. En effet, celui qui reçoit la vie éternelle voit ses péchés détruits. Il quitte la vie dans les ténèbres pour une vie nouvelle, comme l'or purifié qui sort du creuset. Celui qui reçoit le Saint-Esprit entre dans une vie nouvelle. Elle devient une personne régénérée. Chères familles, chers amis, les nouveaux baptisés sont entrés dans une vie nouvelle. Comme un enfant qui apprend à marcher, ils trébucheront encore. Mais à force d'être relevés par le Christ, de par la disposition de leur cœur à obéir au Seigneur, ils marchent en vainqueur. Ils marchent en vainqueur par Christ. Et cela n'est possible que parce qu'il y a eu cet événement de la croix. À la croix, Jésus a rendu la mort sans effet. Elle a perdu tout son pouvoir pour celui qui croit. Par sa mort à la croix, Jésus rétablit la relation brisée avec le Père en Éden. Désormais, ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur, sont appelés enfants de Dieu. Cette nouvelle identité les distingue des autres. Peut-être vous posez-vous la question, où cela va-t-il les mener? Lorsque l'on parle de baptême, parfois on entend certains dire, c'est bien pour toi, si ça peut te faire du bien, vas-y, pourquoi pas? Et ces gens qui parlent ainsi démontrent qu'ils n'ont pas compris ces propos de Jésus. Il s'agit de saisir la vie par la foi. Le choix pour Jésus est un choix radical. C'est un choix définitif. Jésus montre dans ses propos sur la division au sein des familles que marcher avec Christ, ce n'est pas mettre de la cire sur un meuble pourri. Au contraire, Christ enlève ce qui abîme la vie. Christ apporte un souffle nouveau dans l'existence. Christ donne de regarder autrement cette vie si souvent déprimante. Désormais, celui qui reçoit Christ vit pour Christ. Ses pensées, ses désirs, ses projets ont pour objet le Seigneur. L'apôtre Paul déclare en Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » En réponse à l'amour de Christ pour sa vie, l'apôtre Paul répond par le don de lui-même. Il donne tout à Christ au point de déclarer « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Il peut arriver que dans les familles, au moment des retrouvailles, notamment pendant les fêtes, on ne souhaite pas qu'un tel s'exprime. Parce que chaque fois qu'il parle, il revient avec ce Jésus. Cela dérange. On est prêt à parler de tout et de n'importe quoi, sauf de parler de Jésus. Mais pourquoi? La parole de Dieu nous confronte. La peur de se voir mis à nu paralyse la volonté de recevoir la vie. Alors on préfère le silence. Tu es le bienvenu dans la famille, avec les autres, mais de grâce, on ne veut pas entendre parler de Jésus. Dites-nous des choses qui nous amusent, qui nous évitent de réfléchir. Et c'est ainsi que s'installe la division dans la famille. Et Jésus a raison d'exprimer cette réalité. Il est illusoire de croire que dans une famille, lorsqu'il y en a un qui a reçu Christ, il y aura une espèce de paix des braves. Non pas parce que les croyants sont particulièrement belliqueux ou difficiles à vivre, au contraire, mais parce que leur vie est comme une lumière qui expose le mal. Sinon, comment expliquer la persécution de l'Église à travers le monde ? Pourtant, le message de l'Évangile est un message d'amour, c'est un message de paix. Dans les familles, il arrive que l'engagement d'un de ses membres crée une scission profonde, le rejet de l'autre. Et beaucoup de chrétiens peuvent en témoigner. Ils ont perdu des personnes qu'ils croyaient proches, des personnes qu'ils aimaient. Peut-être qu'il serait juste de dire « Qu'est-ce qui me dérange dans la façon de vivre de ma femme, de mon mari, de mon enfant qui a reçu Christ ? Quel est le problème ?» En se posant cette question et peut-être en s'intéressant à ce que dit la parole de Dieu, peut-être qu'on sera amené à la lumière, cette lumière qui va briller dans votre vie et qui va vous amener à saisir les choses autrement. Aux baptisés, ne soyez pas surpris de l'éloignement de certaines personnes. Ne soyez pas surpris de ne plus entendre tel oncle, telle tante, tel ami, tel père, tel beau-père. C'est normal. Jésus vous avertit que votre choix est un choix radical. C'est le bon choix. C'est le meilleur choix à faire pour votre vie ici-bas et pour votre vie après la vie ici-bas. La vie pour Christ est une vie nouvelle, riche de découvertes. C'est une aventure extraordinaire dans laquelle le regret n'a pas sa place. Et pour cela, il faut du discernement. Et Jésus va s'adresser à cette population qui est composée d'agriculteurs. Une population experte, parce que capable d'analyser et de reconnaître les éléments de la nature. Ils savent reconnaître tel vent, ils savent reconnaître tel nuage et les conséquences. Des personnes capables de prédire ce qui va se passer, ce qui vient. Si les agriculteurs du temps de Jésus pouvaient observer les éléments de la nature et anticiper dans leur prise de décision, comment expliquer leur attitude devant tout ce qu'ils vivent depuis la venue de Jésus dans cette société? Jésus n'est pas resté caché. Quand on lit la Bible, il a réalisé des choses extraordinaires, démontrant sa divinité, sa mission. Mais les gens de son époque sont restés incrédules. Et Jésus leur pose la question, « Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas ce temps-ci ?» Cette attitude est qualifiée d'hypocrite par Jésus. Le peuple juif, pour l'essentiel, est bien informé au sujet des signes qui accompagnent le Messie. Ils ont vu ces signes, ils ont touché du doigt ce Jésus, ils ont connu cette réalité, et pourtant, les cœurs restent inaccessibles. Les cœurs restent fermés à l'Évangile. Cette attitude de certains responsables religieux du temps de Jésus, elle est présente aujourd'hui, dans toutes les strates de la société. Beaucoup ont déjà choisi leur façon de vivre, et ils n'entendent pour rien la changer. Pourtant, ils sont parfois conscients qu'un choix différent pourrait être fait. Jésus invite à faire la part des choses, à découvrir par la réflexion ce qui est juste. La réflexion, elle est nourrie de la parole de Dieu, de l'observation. L'observation de notre milieu, de notre environnement, de ceux qui vivent avec nous, de ce que nous entendons. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion que l'on décide de faire le choix pour Jésus. Ce n'est pas non plus sous le coup de l'émotion qu'il faut décider de rejeter Jésus. Prenons le temps de réfléchir, parce que cela est utile. Cela peut nous aider à clarifier, à apurer notre pensée. Et la parole de Dieu va donc agir comme le feu qui peut faire rendre pur l'or. Quelques mots de conclusion. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'âme et l'esprit, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous aurons à rendre compte. Pourtant, ici, il y a un encouragement pour chacun ici présent d'oser se pencher dans cette parole. Elle nous conduit à la vérité. Elle nous conduit à Christ. L'urgence dès la venue de Christ est de rechercher cette relation avec Dieu, cette relation brisée, et désormais cette relation rétablie par la mort et la résurrection de Christ à la croix. Dieu devrait devenir la priorité de nos vies. L'apôtre Paul encourage en disant « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Que les croyants soient encouragés à poursuivre leur marche avec Christ. Au baptisé, le baptême n'est pas l'aboutissement. Le baptême est un commencement. Commencement d'une vie nouvelle. Dans la famille de Christ, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens, « Rivalisez d'estime réciproque, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. » Persévérer dans la prière. À ceux qui n'ont pas encore fait le choix pour Christ, il est encore temps. Il est temps de choisir la vie. Choisir la vie avec le Seigneur. Ce choix est entre vos mains. La mère lionne qui laissait ses enfants, peut-être leur parlait, je ne sais pas, en disant « Restez là ». Rester en sécurité. Il y en a un qui a fait un choix malheureux. Lorsqu'Israël doit entrer en terre promise, Moïse dit, vous avez le choix. Et chacun a fait le choix qui était le sien. Il est temps de choisir. Nous allons prier. Et pendant ce temps de prière, je vais demandez à ceux qui, peut-être à la suite de ce message, auraient décidé de faire un choix maintenant, de lever la main. Et peut-être, si vous le souhaitez après, nous pourrons avoir un entretien. Nous fermons les yeux et nous prions. Dieu notre Père, nous te bénissons parce que tu nous as donné encore l'occasion d'entendre des témoignages, d'entendre comment toi tu agis. Tu as agi dans la vie de Laura, tu as agi dans la vie de David, et tu veux encore agir dans la vie de personnes qui entendent ta parole. Seigneur, que cette parole nous pousse à faire le bon choix, le choix de la vie, que cette parole soit agissante dans nos cœurs. À présent, je vais demander à ceux qui veulent décider de s'engager maintenant de lever la main. Si tu as pris la décision à la suite de ce que tu as entendu de servir le Seigneur, tu peux lever la main là où tu es assis. La décision de suivre le Seigneur est une décision personnelle que personne ne peut prendre à votre place. Vous êtes seul à la prendre. Nous gardons les yeux fermés et restons en prière. Dieu notre Père, nous te bénissons parce qu'aujourd'hui encore est un jour de vie, un jour que tu offres à ceux qui entendre ta parole. Lorsque tu as témoigné concernant le Christ, tu as dit « Celui-ci est mon Fils qui a mon approbation, écoutez-le. Seigneur, nous voulons t'écouter. Viens et réside dans nos cœurs. » pour la gloire de ton nom. Amen.